Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, le rendez-vous nature de Radio G proposé par l'équipe du Plantis à Écuyer, le coworking rural collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Un lieu inspirant et inspiré en pleine nature qui vous propose de nombreuses activités et formations en lien avec le végétal pour mieux les utiliser, les connaître et en faire des alliés précieux. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et avec Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue, aujourd'hui à la console du studio, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Aujourd'hui, pour faire venir le printemps, nous partons à la rencontre du lamier pourpre, une des plantes préférées des butineurs qui égayent les pelouses de leur jolie floraison dès le mois de mars, avec des fleurs savoureuses à déguster dans nos salades. Dans cette émission, nous recevrons aussi dans la séquence interview Marc, apiculteur en cours d'installation, dont nous avons le plaisir d'accueillir les ruches au Plantis cette année. Il nous parlera de son métier et de son lien avec les abeilles et la nature. Karine, quant à elle, animera la chronique Le Bonheur est dans les simples, autour des usages médicinaux et culinaires du lamier. L'approche du printemps nous rappelle notre besoin vital de lumière pour mener notre vie tumultueuse et pressée. L'obscurité est considérée comme un obstacle à nos activités. Nous percevons l'hiver et son cortège de longues nuits comme une mauvaise saison à supporter et nous fait broyer du noir. L'obscurité alimente nos peurs, elle est synonyme de mort ou de danger. Pour repousser ces ténèbres négatives, nous avons multiplié au fil des siècles lampadaires, phares et lumières partout dans la maison. La lumière artificielle nous donne l'illusion de nous affranchir de la nuit noire. Or, il s'avère que le cycle circadien est nécessaire au bon fonctionnement biologique de nos organismes. Il agit dans les processus de vieillissement, de renouvellement cellulaire, du sommeil ou encore du développement de pathologies comme les maladies cardiovasculaires, le cancer ou le diabète. Il affecte notre mental et notre résistance au stress. L'obscurité nous maintient en vie, contrairement aux idées reçues. Il est temps de remettre l'obscurité dans nos vies pour permettre à notre cerveau de mieux fonctionner. S'il est possible de la retrouver dans nos maisons avec de la discipline et de la volonté, en revanche, il est plus délicat de la trouver en extérieur. La surintensité lumineuse nocturne affecte 80% des humains présents sur cette terre. Ce phénomène affecte tous les organismes vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux. Poissons, pollinisateurs, arbres et oiseaux sont ainsi gravement menacés, comme nous, par ce phénomène. Des initiatives émergent un peu partout pour changer l'image de la nuit, comme le tourisme de la nuit noire, les randonnées nocturnes pour découvrir le ciel étoilé, les balades sensorielles de nuit. Alors, qu'attendons-nous pour repartir à la découverte de la nuit et de l'obscurité? Passé le premier temps d'acclimatation, nous basculons dans un monde magique et merveilleux, riche en émotions et en sensations. Oublions le temps d'une sortie nos lampes et téléphones et partons à la rencontre du lamier pourpre. Le lamier pourpre fait partie de la grande famille des lamiacées. Une famille au franc-parler, avouons-le, un peu vociférante, lorsque l'on observe la gorge déployée de leur floraison. Cette famille aromatique, dont nous avons déjà présenté de nombreuses cousines, comme l'hysope, la mélisse, la sauge ou encore la menthe, doit son nom au lamier, dont le genre lamium trouve son origine dans le mot lamia, qui signifie en grec gorge ou gosier. Le lamier ne vit qu'une année et survit grâce à ses semences qui assurent sa descendance. La germination se déroule en hiver, parfois dès décembre. Sa jeune tige rampante se déploie au sol et s'enracine facilement dès que le sol est propice. Au fil de sa croissance, elle se dresse et se ramifie de la base. Lorsqu'on l'accueille, il est facile de reconnaître la section carrée de ses tiges, caractéristique commune avec toutes ses cousines lamiacées. Les enfants peuvent confectionner des sifflets avec la tige séchée. Du haut de ses 20 cm, Le lamier déploie à l'extrémité de ses tiges des bouquets de jolies feuilles triangulaires, opposées deux à deux, velues, aux bords crénelés et aux nervures marquées. Les feuilles, en forme de cœur, ressemblent à celles de l'ortie, ce qui vaut à de nombreux lamiers l'appellation de fausse ortie, car contrairement à celle de l'ortie, elle ne pique pas. Le terme ortie blanche désigne en particulier le lamier blanc, Lamium album, alors que celui d'ortie morte ou d'ortie rouge est réservé au lamier pourpre, Lamium purpureum. Il existe, bien entendu, d'autres lamiers, comme le lamier tacheté ou le lamier jaune, même si le pourpre prédomine dans l'ouest de la France. Les feuilles de lamier ont la particularité de modifier leur couleur en fonction de leur position. Vert tendre à la base, elles se teintent d'un beau pourpre dans la partie supérieure. Lorsqu'on les froisse, elles répandent une odeur aromatique et poivrée. Quand approche le mois de mars, voire même dès février cette année, de jolies feuilles mauve clair émergent en couronne de 6 à 10 fleurs dessous les étages de feuilles supérieures. Leurs 5 pétales soudés se séparent en 2 lèvres, la première forme une sorte d'auvent et assure abri et protection contre la pluie, aux étamines et aux insectes butineurs. La seconde, plus large, prend la forme de piste d'atterrissage pour les pollinisateurs afin qu'ils puissent accéder au nectar. Elles sont ornées de dessins géométriques cryptés qui guident les insectes tel un langage codé, incompréhensible des humains. Pour accéder au nectar au goût sucré et parfumé, les pollinisateurs doivent franchir une barrière de poils infranchissable. Ainsi, les abeilles doivent patienter que les bourdons plus gros aient créé le passage. Et oui, le nectar est un trésor qui se mérite. Certains coléoptères trichent et croquent le tube court-circuiter les épreuves. Les fleurs de lamier sont des sucreries délicieuses à croquer et régalent petits et grands lors des balades ou dans le jardin. La richesse en pollen et en nectar du lamier est un cadeau précieux à la fin de l'hiver pour les insectes qui ont peu de nourriture accessible en cette saison. En échange, ils permettent la fécondation croisée du lamier, même si celui-ci a la capacité de s'auto-féconder. Chaque fruit contient 4 graines pourvues d'une excroissance très appréciée des fourmis. Elles collectent ainsi les graines pour les stocker et les consommer et contribuent à leur dissémination. Encore une belle démonstration de la collaboration entre végétaux et insectes. Seigneur, préservez-moi, préservez ce que j'aime. Frères, parents, amis et mes ennemis même, dans le mal triomphant, de jamais voir Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. Ô vous dont le travail est joie, vous qui n'avez pas d'autre proie que les parfums, souffle du ciel, vous qui fuyez quand vient décembre, vous qui dérobez aux fleurs l'ambre pour donner aux hommes le miel. Ce très beau poème de Victor Hugo est une très bonne introduction pour l'interview de Marc, tout nouvel apiculteur professionnel à chef, qui nous partage sa passion pour ces insectes à l'intelligence subtile. Avant de l'écouter, faisons une pause en douceur avec la voix chaude de Henri Salvador et sa chanson « L'abeille et le papillon ».
Une abeille un jour de printemps voletait gaiement sur la rose bruyère en fleurs dont si douce est l'odeur. Au pied de la bruyère en fleurs, une pauvre chenille en pleurs regardait voler dans le ciel la petite et son miel. Et la pauvre chenille en sanglots lui disait « Je vous aime » Mais l'abeille là-haut, tout là-haut n'entendait pas un mot. Cependant que les jours passaient, la chenille toujours pleurait et l'abeille volait gaiement dans le ciel du printemps. Après avoir pleuré jusqu'à la nuit, notre chenille s'endormit, mais le soleil de ses rayons vint éveiller un papillon. Et sur une bruyère en fleurs, notre abeille a donné son cœur, tandis que chantaient les grillons au petit papillon. Par les bois, les champs et les jardins, se frôlant de leurs ailes, ils butinent la rose et le thym dans l'air frais du matin. Ma petite histoire est finie, elle montre que dans la vie, quand on est guidé par l'amour, on triomphe toujours. On triomphe toujours. On triomphe toujours.
Bonjour Marc. Donc tu es apiculteur et tu vas bientôt installer des ruches aux plantilles justement, et c'est l'occasion de parler de ton métier, en quoi consiste, quelle est ta profession, en quoi consiste le métier d'apiculteur.
Alors donc je suis apiculteur sur Tiercé, près d'Écuyer. Donc je démarre mon activité professionnelle de la saison dernière. Donc j'attaque ma deuxième saison. Le métier d'apiculteur, il est très divers. Moi je l'entends comme étant un métier près de la nature, préservant la nature. Pour moi l'apiculteur est un récoltant, c'est pas un producteur. À mon sens, il doit être là pour soutenir la vie et la survie des abeilles, et donc préserver une coexistence entre les abeilles dites domestiques et les abeilles sauvages. Voilà.
Bon, c'est une très belle définition du métier. Et donc, voilà, lorsque tu évoques ce métier-là, j'entends le lien avec la nature. Et donc, en fait, les abeilles domestiques, bien sûr, je dirais, dépendent quand même de l'intervention humaine pour survivre. Donc, concrètement, dans ton métier, comment s'établit ce lien, justement, entre ce qu'on appelle le milieu, le biotope, et les populations d'abeilles que tu élèves?
Alors effectivement, on fait de l'élevage pour avoir des abeilles domestiques. C'est pas forcément péjoratif ou négatif. Il y a plein de manières de faire de l'élevage d'abeilles. On peut faire de l'élevage en sélectionnant des reines de compétition qui vont être tuées chaque année, remplacées pour être très productives. Ou alors, on peut faire le choix de faire de l'élevage avec des reines qui, parce que la reine donne le ton dans la ruche. Et on peut choisir de laisser vivre une reine jusqu'à 3-4 ans si elle le souhaite. Qu'elle pond toujours des œufs et qu'elle renouvelle, j'irais, la vie de la ruche. Mais il y a plusieurs manières effectivement de faire de l'élevage. On peut faire de l'élevage en coexistence de l'abeille sauvage. L'idée c'est de toujours préserver la nourriture qu'il y a sur un rucher pour en laisser pour tout le monde. En fait, il faut que l'abeille sauvage et l'abeille domestique puissent se nourrir correctement dans un rucher, dans un biotope. Un rucher, donc une définition assez simple, c'est un lieu dans lequel on va déposer des ruches pendant un temps donné. Sur ce lieu, il y aura donc différentes ressources à base donc d'arbres, d'arbustes, de haies ou de jachères, de prairies fleuries, et puis de toutes les fleurs sauvages que l'on peut trouver. Donc l'idée c'est une coexistence toujours, ne pas être dans l'exagération, ne pas dépasser 10 à 15 ruches par endroit et de les espacer au moins de 2-3 kilomètres les uns des autres. Voilà.
Et donc quels sont les habitats que tu recherches pour tes abeilles, parce qu'aujourd'hui en fait on parle d'une plante sauvage qui est le lamier, donc qui compose quand même des espaces plutôt en prairie, enfin ce qu'on appelle des surfaces enherbées. Et donc en quoi c'est, enfin je sais que souvent les apiculteurs apprécient les arbres, et par contre les prairies en tant que telles, quel est leur intérêt pour les abeilles domestiques?
Alors l'intérêt de la prairie, c'est que la prairie va permettre une miellée. Une miellée, c'est une floraison bien particulière d'une plante ou d'un groupe de plantes, de fleurs. Et ce qui va permettre que l'abeille va pouvoir collecter énormément en très peu de temps du nectar, du pollen, soit dans une haie, soit dans un arbre, soit sur une prairie fleurie. Un rucher, il est d'abord en premier lieu maintenant ombragé avec le changement climatique qui est bien arrivé, bien installé dans nos biotopes, malheureusement, eh bien, il faut des abeilles à l'ombre, sinon elles cuisent au soleil. Donc, il faut idéalement installer une ruche, installer ouverture sud-sud-est, ombragée, pas dans un bois parce qu'elles n'aiment pas le noir, pas en plein soleil non plus parce qu'elles aiment. Elles craignent la grosse chaleur, et donc assez proche des ressources. Il faut de l'eau à moins d'un kilomètre, ou maximum un kilomètre, et l'abeille va se déplacer entre 1 et 3 kilomètres pour chercher sa nourriture. Il lui faut de la réserve pour toute l'année. Hein. Donc il faut qu'elle puisse avoir idéalement quelques noisetiers à manger en début de saison sur le janvier-février, et finir sur du lierre, idéalement. Donc idéalement, une grande diversité, un laisser-aller quand même de la nature, sans trop la diriger, et l'abeille se portera bien.
Alors, écoute, je pense que nos auditeurs ont appris pas mal de choses sur les abeilles domestiques. Et donc, pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais un ou deux conseils ou un témoignage pour justement déjà favoriser les abeilles domestiques, parce que chacun dans son jardin, je pense que sans s'en rendre compte, le jardin doit être visité par des abeilles domestiques, mais aussi favoriser en même temps. Enfin, je dirais que c'est un prétexte aussi pour prendre soin des abeilles sauvages. Donc, quel petit conseil dans la vie de tous les jours?
Alors, un petit conseil pratico-pratique. Oui, effectivement. Un premier conseil, déjà, mettre des pièges à frelons de février jusqu'à octobre-novembre. Ça, c'est très important. Deuxième conseil, arrêtez de tondre. Par pitié, arrêtez de tondre. Quand c'est possible, faites des chemins. Laissez des prairies fleuries. La vie reviendra. La vie revient, elle se réinstalle toujours. Mais de l'herbe à 10 cm, il n'y a pas de vie dedans, en fait. C'est un sol mort qui brûle l'été et qui se renouvelle pas l'hiver. Voilà, et qui se repose pas l'hiver. Et un autre conseil, essayez d'être des semeurs, en fait. Essayez d'attraper des graines à droite à gauche, mettez-les dans vos poches, dans vos boîtes à gants de voiture, et semez-les à la volée, et laissez les haies se fournir, s'enrichir, parce que c'est la vie, en fait, les haies. Voilà.
Ben, c'est un excellent mot de la fin, Marc. Et ben, au plaisir de déguster le miel qui viendra.
Merci d'avoir reçu.
À très bientôt, Marc.
À très bientôt.
Mon oncle Abélard m'avait dit: rien n'est plus doux dans les choses éternelles, rien n'est plus doux que le parfum du miel.
Si les autres lamiers apprécient les bois plutôt ombragés et la compagnie de l'ortie, le lamier pourpre préfère les prairies ensoleillées riches en azote. Son appétence pour l'azote le conduit aussi à coloniser les jardins et les cultures qui laissent les sols nus. Il affectionne aussi les friches et les zones de décombre où s'accumulent les déchets. Cependant, il serait dommage de l'éradiquer trop vite, car il assure en période hivernale un très bon couvre-sol protecteur et accueillant pour les pollinisateurs sauvages, comme les guêpes, les abeilles sauvages solitaires et les bourdons. C'est une plante pionnière utile qui contribue à structurer les sols et réduire le lessivage et la battance des sols. En outre, elle nous gratifie de la beauté de ses floraisons. Envahissantes comme les orties, les lamiers semblent plus adaptés dans les espaces plus sauvages. Cependant, dans les jardins ornementaux, le lamier est un couvre-sol apprécié. Certains cultivars au feuillage argenté illuminent la saison hivernale. Le lamier blanc illumine les espaces plus ombragés. Dans les pelouses, le lamier se plaît en compagnie des pâquerettes et des pissenlits. Il invite à laisser la tondeuse au garage et à se laisser convier au spectacle des butineurs voletants à l'assaut des fleurs gorgées de nectar. Dans la mythologie grecque, Lamia est une jeune fille qui devient l'amante de Zeus et se fait enfanter par lui. Héra, la femme de Zeus, jalouse, tue l'enfant de Lamia. Cette dernière, inconsolable par vengeance et désespoir, se transforme en ogresse, dévorant les enfants. Zeus prend pitié de sa transformation en figure hideuse et jalouse et, pour soulager sa souffrance, lui donne le pouvoir d'enlever ses yeux et les remettre. Une nouvelle histoire sordide dont Zeus ne sort pas grandi une nouvelle fois. Peut-être la bouche béante des fleurs du lamier évoque-t-elle celle de l'ogresse, lui donnant ainsi son nom. Les lamiers sont reconnus pour leurs propriétés astringentes, anti-inflammatoires, dépuratives, diurétiques, expectorantes et vulnéraires. Il est donc conseillé en cas de bronchite, préconisé par d'autres contre la gastro-entérite, car antidiarrhétique, en cataplasme pour cicatriser les plaies ou calmer les démangeaisons. Le lamier est aussi reconnu pour agir sur les symptômes de la ménopause, réduire les pertes blanches ou atténuer les règles abondantes. Son odeur légèrement incommodante ne le rend pas populaire pour se soigner. Toutefois, il mériterait une plus grande place dans nos usages, étant donné sa reconnaissance facile et son abondance dans les jardins. Pour en savoir plus et faire des préparations, je vous invite à écouter maintenant Karine dans la chronique Le bonheur est dans les simples.
En ce mois de mars, le lamier est assez courant autour de nous, en campagne, au bord des champs, dans les jardins. Et vous verrez qu'avec sa petite sommité pourpre, vous ne passerez pas à côté. Elle est assez facile de reconnaître. Tous les lamiers sont comestibles, que ce soit le lamier blanc, le lamier pourpre. Quand on parle de ces couleurs, on parle de la couleur des fleurs. Et du côté médicinal, retenez que cette plante, c'est un tonique astringent. C'est vraiment la particularité médicinale du lamier, c'est-à-dire tonique astringent qu'elle resserre les tissus, les muqueuses, et qui les rend, donc ces muqueuses, plus aptes à se contracter. C'est ce qui va réduire les sécrétions du corps en général. Ça va permettre de tarir tout ce qui est écoulement pathologique et de hâter tous les types de cicatrisation de plaies, qu'elles soient récentes ou qu'elles aient du mal à cicatriser. Du coup, cette dernière action de cicatrisation est souvent reliée à son côté antiseptique. Ça va souvent de pair. Sachez que ces vertus, lorsque vous avez des épisodes de diarrhée, peuvent aussi être bénéfiques. Pensez à elle, ou quand vous avez des plaies qui cicatrisent mal, elle est très reconnue pour réduire aussi les leucorrhées. Et leucorrhées, c'est les pertes blanches abondantes. Et vous pouvez la consommer en tisane ou en alcoolature. En tisane, ce sera une poignée de plantes jetées dans un litre d'eau, par exemple. Sa récolte, la période, c'est le printemps. Elle est non piquante, donc c'est une plante qui est assez velue et qui peut être confondue avec l'ortie. Et si c'est le cas, si vous la confondez avec l'ortie, cette dernière est comestible. Donc ouf, hein, il n'y aura pas de problématique. Et puis vous le saurez si vous confondez avec l'ortie. L'ortie pique. Vous saurez tout de suite que vous êtes trompé. Alors que le lamier est plutôt doux avec son petit pelage velu. Pour la garder au sec, vous veillerez à bien faire sécher le lamier dans un lieu tempéré après votre récolte, un lieu qui soit bien aéré et sec, sinon la plante va moisir. Et vous le verrez très vite, elle a une grande teneur en eau, on constate qu'elle est assez molle, donc ça veut dire qu'elle regorge quand même pas mal d'eau, et ce qui fait qu'elle va libérer son eau au séchage très lentement. Donc vous risquez, si ce séchage est très long, parce que c'est séché dans une pièce humide, vous risquez de faire moisir la plante et de la faire marronner, donc d'avoir moins de propriétés médicinales. En termes de récolte, vous la trouverez à partir du printemps, donc février, mars. Vous la trouverez dans les lieux qui sont profondément marqués par l'homme, comme je disais. Ça peut être les bords des chemins, ça peut être les champs, les remblais, les jardins. Toutes ces zones, en fait, qui sont très riches en azote, liées au travail de l'homme. Au niveau alimentaire, on trouve beaucoup, beaucoup de ressources dans notre librairie française. On a beaucoup d'auteurs, de documentation qui indiquent comment manger le lamier en cuisine, comment la valoriser, elle a un petit goût délicat de champignons. Donc de la plante entière, que ce soit les feuilles, les fleurs sont un peu plus délicates, que ce soit les racines. Mais toute la plante est comestible. De février à octobre à peu près, vous aurez les feuilles et les pointes qui sont donc pourpres. La partie verte du lamier fournit une tisane qui a beaucoup de goût et qui est aromatique pendant presque toute sa saison. Les jeunes fleurs et les pointes du lamier, donc la sommité, se mangent en salade à partir de février jusqu'en avril, donc dès lorsqu'on la voit apparaître dans les pelouses. Et cuites, elles sont assez douces, ces sommités, et conviennent plutôt pas mal pour les soupes et les potages. On mange aussi le lamier comme un épinard ou comme un légume dans un gratin, par exemple. Et puis, une idée de recette qui peut être assez originale, c'est de se faire un petit smoothie revitalisant, surtout si vous êtes en période de diarrhée. Qui est assez pénible. Donc un petit smoothie vert vitalisant. Vous pouvez laver les pointes du lamier, donc la sommité, qui est un peu pourpre, et sans les cuire, vous les réduisez en purée à l'aide d'un mixeur. Vous faites passer à travers d'une passoire, une fois que c'est réduit en purée, afin d'éliminer tout ce qui va être partie grossière, non mixée. Vous assaisonnez le jus que vous avez obtenu comme vous voulez, à votre convenance, que ce soit avec du miel, que ce soit avec des épices ou bien du sel. Et puis, pour relever le goût, vous pouvez aussi la réduire en purée avec des fruits sucrés tels que des pommes ou des bananes et les ajouter à un jus, par exemple. Donc ça, toutes ces idées pour pouvoir consommer le lamier.
Comestible et riche en fer et en sels minéraux, le lamier possède tous les atouts pour rester en bonne santé, car il contient des macro-éléments comme les glucides et des protéines complètes. Et oui, la viande n'a pas le monopole des apports protéiques, les végétaux aussi, qu'on se le dise. En cuisine, les fleurs au goût sucré et à la saveur de miel se consomment crues dans les salades. Les feuilles se cuisinent comme des épinards sautés à la poêle ou hachés, comme une herbe fraîche qui parfume les sauces, une quiche ou un gratin. Certains n'apprécient pas sa texture et sa légère amertume. Il est possible de confectionner un beurre parfumé aux fleurs de lamier pourpre. Riche en mucilage et en saponine, les fleurs épaississent les soupes. Le tanin des feuilles a un effet astringent sur les tissus. Certaines personnes trouvent le goût un peu amer. Si l'on prend l'habitude de cuisiner les plantes sauvages, notre palais retrouve vite le plaisir de ces saveurs nouvelles. Les graines peuvent se consommer avec d'autres, comme graines germées. Voici une petite recette de pâté végétal au lamier pourpre, trouvée sur l'excellent site de plantes sauvages comestibles, pour vous mettre en appétit. Mixez 60 g de graines de tournesol. Ajoutez un grand bol de pointe de lamier pourpre, 100 g de tofu fumé coupé en cubes, 60 g d'huile d'olive et le jus d'un demi-citron. Mixez à nouveau, rajoutez de l'eau si le mélange semble trop épais. Votre pâté végétal est prêt à être tartiné sur de petits toasts ou, pourquoi pas, sur des feuilles de nombril de Vénus dont nous avons parlé récemment. On peut y tremper aussi des morceaux de crudité. Allons, il est temps de vous quitter pour le déguster. Cette émission est terminée, il va falloir se quitter. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. N'oubliez pas qu'il y a deux pages. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment, faites passer le message autour de vous. Claudie et Christelle et toute l'équipe du Planty vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour découvrir une nouvelle plante.
Radio-G.fr. Un point, c'est tout.